Rebonjour à tous, rebonjour à toutes, et bienvenue dans les aventuriers du Pixel Perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones.
Oh, rats.
Sans savoir, chers auditeurs et chères auditrices, que le thème de cette 7e édition de la journée de la radio sur Transistor n'est autre que la fiction audio et les espaces fictionnels à la radio. Car oui, le son a un pouvoir magique. Raconter une histoire, habiter un espace, faire vivre des personnages, bref, créer un monde. Alors, pour cette 8e aventure, Thomas et moi avons décidé de vous bander les yeux et de vous emmener dans le monde merveilleux du sound design. Des premiers bips, des jeux d'arcade aux compositions orchestrales des Super Mario Galaxy, en passant par les bandes son à pistes multiples, nous nous sommes plongés, les yeux fermés, dans l'histoire du son vidéoludique. Tandis que le jeu vidéo s'empare des pouvoirs du son, nous nous sommes en droit de nous demander si le jeu vidéo n'est pas une fiction audio invisible. Un jeu, en particulier, a conscience de ce monde sonore, tellement conscience qu'il prend le parti de supprimer l'image pour vous faire incarner un mystérieux chevalier aveugle. Fermez les yeux, respirez un grand coup et tendez l'oreille.
Oui, tout à fait. Ce qu'on remarque, c'est qu'en même temps que la technique va évoluer au niveau du jeu vidéo, le son qui fait partie de la technique et le rapport au son du joueur dans le jeu vidéo va changer. On passe évidemment au tout début sur les micro-ordinateurs ou sur les tout premières manières de jouer à des sons qui sont d'abord générés par les machines. Donc c'est du son brut qui n'est pas vraiment mélodique et qui est compliqué à utiliser pour pouvoir faire quelque chose d'harmonieux, qui pose vraiment souci. Et puis, on va avoir le développement des canaux audio multiples qui vont permettre en fait, de superposer grâce à des techniques. Et donc, c'est là que beaucoup de jeux de toute l'ère de la cartouche, jusqu'à la fin de l'ère de la cartouche, vont s'inspirer de cette technique-là, qui va permettre de superposer des ondes, en fait. Et avec ces ondulations-là, on va essayer de reproduire des sons qui correspondent à des choses qu'on connaît, ou alors carrément créer des musiques. Et c'est grâce à ça qu'on a eu certaines des plus belles bande son de l'histoire du jeu vidéo aussi. Et
oui, c'était déjà quelque chose de... Une grande avancée déjà qu'un son puisse être produit par la machine. Avant, on n'imaginait pas du tout. Et puis, progressivement, des bips.
Et puis surtout un son qui ne nous casse pas la tête, quoi.
Oui, voilà. On se souvient du début des musiques en 8 bits comme ça, qui sont simplement un ensemble de petits bips, pour aujourd'hui, carrément des compositions absolument symphoniques de musique classique avec des vrais compositeurs, comme une musique de film, finalement. Mais rien de tel qu'un petit exemple. La différence saute aux oreilles, vous allez voir, entre ça...
Et ça. Et ça.
Et ça.
Dremyolok, greetings, Wundunik. I am Parthenax. Who are you? What brings you to my Strumach, my mountain?
Donc le premier extrait date de 86 d'un jeu qui s'appelle Might and Magic Secret of the Inner Sanctum, et on voit bien quand même qu'à l'époque on était en basique des sons qui pour représenter une rencontre avec un monstre en fait et un combat ensuite. Et puis l'autre extrait c'est Skyrim en 2011, et là on a tout un univers sonore qui se déploie, les pas dans la neige, l'arme qui sort, le dragon qui arrive, le dragon qui parle, enfin il y a toute une complexité sonore qui a été permise par l'arrivée du CD et du stockage sur des gros espaces.
Et peut-être que vous ne l'avez pas pas remarqué, mais dans Might and Magic, on avait aussi affaire à l'apparition d'un monstre donc, qui est matérialisé uniquement par des bips un petit peu plus insistants ou un petit peu plus longs, un petit peu plus courts, tandis que vraiment dans Skyrim, on a un travail extrêmement précis de l'atmosphère sonore, avec bien sûr la stéréo qui permet d'entendre le dragon arriver comme s'il était effectivement loin de nous, puis son approche et ensuite sa voix extrêmement profonde avec un travail de doublage
puis même avec
assez
le
impressionnant.
Son du vent de la montagne derrière aussi qui est travaillé par rapport à la voix. Enfin, tous les sons de la nature sont en parfaite harmonie et sont totalement reproduits. Et tout se passe en fait comme si l'évolution du sound design était totalement corrélative de l'évolution des graphismes. C'est-à-dire qu'en même temps que les graphismes sont capables de faire exister toute une représentation visuelle et tout un espace visuel ultra complexe, eh ben les sons vont être capables de faire pareil et de représenter tout autant que les graphismes une ambiance et un décor en fait.
C'est ça, parce qu'on vous conseille vivement d'aller voir des let's play de Might and Magic. Vous vous rendez compte que voilà, on a vaguement un couloir avec... une espèce d'amas de pixels qui représente, on suppose, un gobelin, peut-être.
Oui, quelque chose,
éventuellement.
Des portes.
Et ensuite, bon, bien sûr, les graphismes de Skyrim qu'on ne vous présente plus. Et finalement, le son dans Might and Magic, puisque ce sont des bips un petit peu comme ça, c'est finalement comme une espèce d'alerte qui correspondrait, ou en tout cas qui matérialiserait d'un point de vue métonymique la voix du MJ qui prévient, tiens, voilà un monstre, maintenant, hop, calcul de probabilité. Là, il y a toute la complexité qui arrive avec en même temps que les graphismes, comme tu le disais.
Oui, c'est ça. Enfin, et puis la voix du MJ quand même qui reste dans un truc très. Enfin, c'est le réflexe, quoi. C'est-à-dire, il y a ça, il y a pas. Parce que c'est vrai que le MJ avait la capacité aussi de faire exister tout l'espace dans les RPG, parce que là on parle de deux RPG. Le MJ avait cette capacité à faire exister tous les espaces. Et là, bah non, on reste à quelque chose de très basique. Il y a un monstre, quoi.
Et en plus, justement, si on pourrait imaginer une expérience un peu rigolote où on calerait le son, la bande son, l'expérience de bande son de Might and Magic sur Skyrim, sur les graphismes de Skyrim, on serait totalement désorienté. Il y a une espèce de une tolérance de la suspension d'incrédulité qui se diminue à mesure que le son devient de plus en plus précis, de plus en plus subtil.
Oui, exactement.
Donc finalement, tout un monde est créé par le son en même temps que les graphismes. Si on supprimait le son au graphisme de Skyrim pour le remplacer par des bips, tout le monde sonore et le monde fictionnel en général s'écroulerait. Donc du coup, on peut se demander si le jeu vidéo ne serait pas finalement une fiction audio cachée.
Ben, surtout quand on entend des interviews de sound designers ou de gens qui ont travaillé sur des sons dans des jeux vidéo. Enfin, on se rend compte qu'ils bossent tous à partir d'une banque de sons, donc des sons ultra anonymes qui chopent un peu partout et qui après va servir à certaines choses ou ne vont jamais servir. Et du coup, c'est toujours ultra artificiel et ultra déshumanisé, enfin ultra dépersonnifié comme forme de son, et elle n'a pas vraiment d'existence propre. Et en fait, c'est le jeu vidéo qui va venir donner du sens à ces sons-là, c'est-à-dire les mettre dans un espace.
En quelque sorte, il y a comme une espèce de tressage des sons pour former tout un monde. Finalement, le métier de sound designer ou de foulée artiste, comme on peut dire au cinéma et comme on disait au début de l'invention de ce métier, qui a été inventé finalement avec à un certain moment du cinéma, prend une place prépondérante. C'est une place qui est accordée non plus seulement aux musiques en 8 bits ou aux petits effets sonores pour accompagner le geste, mais là, ça va être une place qui va être accordée au bruitage, aux ambiances sonores avec une véritable complexité.
Oui, mais c'est ça. Enfin, c'est l'extrait qu'on écoutait de Skyrim juste avant. C'est-à-dire qu'on a tout cet espace qui va se déployer et tout. En fait, le son devient signifiant dans la matière... le système global du jeu, en fait. Et il devient un son qui va répondre à d'autres sons et qui, ensemble, vont créer une atmosphère de montagne ou une atmosphère de forêt ou quelque chose comme ça, en fait.
Effectivement, on cherche de plus en plus de réalisme, comme on peut l'entendre dans cet extrait du sound design de Siberia.
Bonjour.
Vous êtes arrivé par le train, n'est-ce pas ?
Oui, je viens de Valadilen.
Ah, il y a longtemps que j'ai pas vu de train, hein. Vous amenez des étudiants ?
Non, je voyage seule. Enfin, presque.
Je me souviens au début de l'automne, les trains amenaient des jeunes gens venus du monde entier pour étudier la zoologie, la botanique, la paléontologie. Toutes ces choses, quoi. Ici, c'était une grande université.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui ?
Aujourd'hui...
Donc oui, voilà, dans cet extrait, on voit encore une fois toute la complexité. Et pourtant, on pourrait avoir une impression... Je pense que ce qui est intelligent dans cet extrait, c'est qu'il y a une volonté de cacophonie, parce qu'on est dans un genre de... L'héroïne, à ce moment-là, arrive dans un genre de
d'université... Une serre, en fait.
Pardon ?
Une volière, en fait.
Oui, c'est ça, un genre de volière dans, au milieu d'une université désaffectée. Et ouais, il y a un effet de cacophonie. Dès qu'on arrive dans la première scène, il y a un effet de cacophonie. Et pourtant, même malgré la cacophonie ambiante, on arrive quand même à faire exister grâce au bruit de l'eau qui coule aussi, grâce aux voix des personnages qui sont séparés, le jeu des comédiens de doublage. On arrive quand même à faire exister quelque chose par-dessus. C'est comme si le son se créait aussi dans le jeu vidéo par superposition de couches de sons qui se répondent l'une l'autre et qui arrivent à se diminuer aux effets, grâce aux des effets de mixage. Enfin, au moment du mixage.
Ce qui serait intéressant, en fait, là, ce serait de faire une expérience avec nos auditeurs pour voir s'ils ont ressenti justement cet espace de la serre, de la verrière avec tous ces oiseaux dedans, avec ces effets d'écho qui sont extrêmement bien travaillés. C'est, comme tu dis, cet effet de cacophonie, les différentes espèces d'oiseaux qui se répondent, les bruits de pas. Est-ce que, pour quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, est-ce que ça crée immédiatement son
sentiment ?
Il
existe?
Me semble que oui.
Bah, oui. Sans doute.
Parce qu'il y a, il y a un véritable effort de spatialisation sonore. Les sons, finalement, nous informent et nous aident à nous repérer d'un point de vue sensoriel tout autant que les images. Mais ça, on ne s'en rend pas forcément compte, a priori, quand on joue au jeu.
Et puis même, les sons aussi peuvent nous permettre de nous repérer à l'intérieur même du système de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui vont devenir représentatifs d'un certain moment du jeu et d'une certaine confrontation face au jeu, en fait. Moi je pense notamment à tous les musiques qui vont changer quand on est face à un boss ou les bruits de progression quand on passe un niveau. Enfin, c'est des bruits très le bruit de Skyrim, il est typique à ce niveau-là, c'est on a un petit tom-tom, et puis après on a une petite musique comme enfin bon, je mis très mal.
Thomas Brunel, sound designer.
Et du coup à travers ces sons-là, on arrive à se repérer dans le jeu, et le jeu, en plus de nous donner une ambiance dans laquelle d'un point de vue narratif, on s'immerge et on est capable d'incarner quelqu'un dans cette ambiance-là, et ben le jeu nous guide aussi, les sons nous guident à travers leurs mécaniques et toutes ces choses-là.
Oui, et puis tu parlais du son corrélatif d'un danger qui arrive. En fait, finalement, ça nous informe d'un point de vue stratégique aussi, parce que notre champ d'écoute, finalement, dépasse largement notre champ visuel, notre champ de vision, même, et a fortiori le champ délimité par l'écran de l'ordinateur ou de la télévision, et ce qui nous permet une expérience de jeu beaucoup plus à 360 degrés, finalement.
C'est ça, oui, bah, on est à la fois dans cet espace, on est dans deux espaces, en fait, finalement, ouais, on se retrouve totalement immergé grâce au son, toujours le son qui arrive à créer ces espaces-là, quoi.
Oui, ça me rappelle, parce que tu disais tout à l'heure, quand on parlait de la voix du MJ qui, au-delà de la simple alerte qui va faire exister le monstre quand il arrive, parfois il va essayer de créer l'ambiance ou de simuler l'arrivée du monstre. On se rappelle de la scène dans Stranger Things quand je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs.
Celui qui est coiffé comme Agnès Varda.
Celui qui est coiffé comme Agnès Varda simule l'arrivée du démon Gorgon.
Oui.
Et en fait, il commence à essayer de taper sur la table. Très concrètement, il essaye de reproduire une expérience de sound design un petit peu avec les moyens du bord, comme nous disait JBX dans l'extrait précédent, pour mettre ses joueurs dans l'ambiance. Et là, en fait, le jeu parvient à tout ça, mais finalement d'une manière qui n'est pas beaucoup moins artisanale que ça. Enfin, il y avait une interview sur France Culture d'un jeune sound designer.
Oui,
alors, c'était de quel studio,
Ubisoft,
il me semble.
Un sound designer chez Ubisoft qui s'appelait, j'ai que son nom, c'est Gavoil, je crois, son nom de famille. Et qui disait, oui, que lui, pour faire des sons de saut, il travaillait sur des courgettes et des salsifis.
Oui, qu'il donnait des coups de salsifis donner une impression
pour créer des bruits de saut ou de progression. Donc, c'est vrai que c'est des sons qui sont totalement éloignés de ce qu'on pourrait rapprocher d'un saut, et pourtant eux ils arrivent à le travailler comme étant un saut, finalement.
Et du coup il existe un jeu dont nous parlions tout à l'heure avec JBX et dont nous tenions à vous parler aujourd'hui pour cette 7e journée de la radio, qui s'intitule A Blind Legend. Alors qu'est-ce que c'est A Blind Legend? D'abord on va peut-être écouter un petit extrait pour se rendre compte.
Cette musique, père.
Dis-moi ce que tu vois.
On est sur un pont. Il y a de la brume et un gouffre gigantesque en dessous. J'ai peur. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin, père.
Approche ! Misérable vermine !
Va cacher, Louis.
Bah oui, là on voit tout de suite par rapport à l'intérêt porté pour toute l'ambiance sonore, la volonté du jeu de créer un jeu, enfin une expérience basée uniquement sur le son.
Oui, parce que alors en fait ce jeu c'est un jeu qui se joue entièrement à l'oreille. Alors peut-être explique-nous un petit peu la genèse de ce jeu.
Alors le jeu a été développé par un studio lyonnais qui s'appelle Dowino, qui a lancé un Ulule en 2014, je crois, parce que le jeu a été développé fin 2015. Enfin, il est sorti fin 2015, donc c'est un jeu bon qui a deux ans, mais qui est pas si vieux que ça.
C'est un jeu mobile.
C'est un jeu mobile, ouais, mais je crois qu'ils l'ont sorti ensuite sur ordinateur. Enfin bon, voilà. Et donc avec un partenariat France Culture aussi qui a participé à la production du jeu. Et donc le jeu nous raconte l'histoire d'un chevalier, Edward Blake, qui est rendu aveugle. On commence avec lui, il est aveugle. Et du coup, tout l'écran du jeu est noir, en fait, avec un genre de légère brume qui servira juste à signifier les coups qu'on prend ou les choses comme ça. Et du coup, c'est assez déstabilisant, étant donné ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les graphismes participent tout autant que le son à créer une atmosphère, et quand on se retrouve sans aucun graphisme, on est un peu désarçonné. Et donc ce jeu, après la quête est très typique, limite sexiste, mais il s'agit d'aller retrouver la femme enlevée du chevalier, avec l'aide de sa fille. Et c'est là que le personnage de la fille devient intéressant, Louise, qu'on a entendu dans l'extrait. Parce qu'en fait, Louise, pendant toute la durée de la quête, va guider son père pour arriver jusqu'à sa mère. Jusqu'à sa mère. Et ce système de guidage, bon, il paraît un peu artificiel comme ça, mais là où il devient intéressant, c'est qu'il est soutenu par une technique qui s'appelle le son binaural. Donc le son enregistré en binaural, c'est-à-dire que quand vous l'écoutez, le son binaural, c'est comme si en l'écoutant, vous étiez présent dans l'espace du son qui est envoyé. C'est-à-dire que si vous pouvez entendre qu'elle vous parle à droite, Louise, ou qu'elle vous parle à gauche, ou qu'elle vous parle devant, et du coup, il va y avoir tout un système de guidage où il va falloir écouter ce qu'elle dit, entendre les voix et pouvoir arriver à se déplacer dans l'espace. Et ça marchera aussi pareil pour les combats. Pour les combats, on entendra des ennemis qui se préparent à frapper d'un certain côté, et il faudra que nous, on frappe d'un certain côté, en fait, tout en s'orientant au son. Et là, pour le coup, le son prend toute la place, vu qu'étant donné qu'il n'y a plus de graphisme. Excusez-moi. Ça va ? Oui. Oui. Excusez-moi. Du coup, le son prend toute la place et crée tout un univers dans lequel on est réellement immergé, mais en tant que Blake, parce qu'en fait, on est comme lui dans cet univers. C'est-à-dire qu'on n'y voit rien, on est bloqué par cet écran noir et ce brouillard qui nous empêche de voir.
Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas si on l'a bien entendu là avec l'extrait, peut-être qu'il faudrait réécouter l'émission avec un casque ou pour bien entendre le déplacement de la voix, mais là, avec cette scène d'attaque de troll, donc sous un pont, on entend très clairement la voix du troll qui arrive par en dessous et qui se déploie ensuite dans l'espace devant, et puis la petite fille qui court un petit peu de part et d'autre du micro, ou en tout cas des micros, pour créer une expérience véritablement spatio-sonore, je ne saurais pas exactement comment dire. Et du coup, en fait, ce qui est très intéressant, comme tu l'as souligné, c'est un jeu qui a été co-développé par France Culture. Donc France Culture, qui est quand même aussi connue pour tout son répertoire de fiction radiophonique et tous ces réalisateurs dont nous en avons reçu certains aujourd'hui.
C'était ce matin.
Et en fait, finalement, on s'aperçoit que France Culture se met à produire aussi des jeux vidéo. Alors, est-ce que la fiction audio interactive, est-ce que le jeu vidéo interactif, mais sans l'image, serait une espèce de renouveau de la fiction sonore ?
D'une certaine manière, oui, parce que, comme disait JBX tout à l'heure en disant qu'il intégrait le narrateur à la fiction audio, là, le jeu vient intégrer le joueur à la fiction audio, en fait, et vient le mettre en pleine possession des moyens de ce qui se passe. Et pour le coup, on pourrait croire que c'est artificiel parce que c'est ultra scripté, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est moins rendu artificiel justement par ce système de son qui, en même temps, nous rend vulnérable en fait dans ce monde-là. On est à la place de Blake et on ne sait pas ce qui se passe et on doit être tout le temps en alerte et tout le temps être en connexion avec le son et constamment. Et même le son, ça passe par des petits... par des petits détails. Des fois, on peut entendre une cascade au loin, ou je crois même qu'à un moment, on peut mourir si on s'approche trop de chevaux qui sont en train de courir, et si en fait on s'approche trop et qu'on entend énormément leur course. Okay. Et plus on se rapproche, plus on risque la mort, jusqu'à se faire écraser sous les pas du cheval, en fait, des chevaux. Et du coup, ça renouvelle cette expérience-là. Ça, le joueur, il est placé non plus. Il est plus seulement spectateur de cette ambiance. Il est plus seulement immergé. C'est plus seulement le spectacle dans un fauteuil en jouant avec les graphismes et tout ce qui est le son. Là, pour le coup, il est immergé dans cet espace, mais il en est aussi. Il est aussi ultra vulnérable à ce niveau-là. Et c'est hyper intéressant que ce jeu vidéo replace le son comme comment dire,
comme matière du jeu vidéo.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Ce n'est plus le spectacle dans un fauteuil, c'est Daredevil dans un fauteuil.
C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, on s'amuse avec le son, on joue avec le son et on va construire des choses avec le son aussi.
Maintenant, il faut voir si ce jeu donne lieu à une suite, parce que comme on a pu le voir. Puisqu'on a estimé que si on découpait un petit peu l'histoire de la fiction à la radio, on pouvait penser aux 45 tours qui racontaient des spectacles humoristiques ou qui racontaient des histoires populaires, etc. Puis ensuite aux fictions radiophoniques d'Orson Welles, par exemple, qui s'emparaient de toute la littérature populaire de l'époque, notamment de science-fiction. Ensuite, au tournant des années 2000, ça a été, comme nous l'avons dit avec JBX, la fiction MP3, enfin les sagas MP3, comme on a pu... qu'on a pu les appeler, tels que Reflet d'Acide, Noël Buck et bien d'autres. Mmh. Et est-ce que Blind Legend va faire des émules, finalement? Est-ce que ça va devenir le nouveau type, le renouveau de la fiction audio aujourd'hui?
Ça peut être hyper intéressant d'avoir toute une gamme de jeux fondée sur ce danger du son, en fait, sur ce flou de ce qu'est le son, et que le son soit pas seulement quelque chose qui passe dans nos oreilles, mais qu'on est obligé de comprendre aussi. Pour pouvoir avancer dans le jeu, c'est
très intéressant. Parce que c'est quelque chose qui inquiète profondément la position du joueur. Il y a un moment où le joueur se sent extrême. Plus les graphistes sont bons, plus les informations se multiplient sur l'écran, les statistiques, etc., lui donnent l'impression de maîtriser totalement la quête. Mais en fait, finalement, on s'aperçoit que le son, c'est peut-être l'ultime rempart, l'ultime danger qui peut le menacer, qui peut arriver d'on ne sait où, finalement.
Oui, parce que c'est quelque chose qui relève d'un sens, qui lui permet de se repérer énormément dans l'espace et qui lui permet d'avoir maîtrise sur cet espace. Dans un art qui met au cœur de ses mécaniques le contrôle de l'espace, c'est pas rien, quoi, de remettre en cause ce contrôle-là.
Oui, c'est ça, le son, en fait, finalement, ouvre une nouvelle dimension de l'espace dans le jeu vidéo, là où on ne l'attend pas, en fait. Le son, finalement, c'est toujours ce qu'on n'attendait pas.
Exactement.
Et... ainsi, on peut se dire, en conclusion, qu'après les fictions MP3 de notre enfance, dont nous avons parlé en première partie d'émission avec JBX, le créateur de Reflet d'Acide, peut-être que c'est dans cette interactivité que la fiction audio va trouver sa prochaine évolution. Ce 8e numéro des Aventuriers du Pixel Perdu touche à sa fin. Nous sommes ravis d'avoir participé à cette 7e édition de la journée de la radio sur Transistor. Merci à Félix et Rémi en régie. Et merci à tous et à toutes de nous avoir accompagnés dans ce périple sonore. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, jouez bien.
Raconte-nous une histoire.
Mercredi 11 avril, 7h-18h, c'est la journée de la radio de Transistor, en direct et en public du Théâtre Cantor de l'ENS de Lyon.